Vous écoutez
RMC.
Jusqu'à Santa Barbara, bien sûr.
Elle est partie très très loin.
À Melrose Place, à Beverly Hills. Ton enfance, ton adolescence.
Putain.
Les premiers émois d'homme. Et Diaz.
Pour qui alors?
Hein?
Pour qui?
Ah, moi, c'est Beverly Hills, hein, puisque Melrose Place. Hein.
Okay.
Ah, moi, Brenda, tout ça.
Ah, tous ces jeunes super friqués, là, ça te parlait.
Ça faisait rêver, moi.
Ça te parlait, hein, Nicolas.
De ma campagne bordelaise, je voulais dire.
T'as raison, Morgane, de le ramener, lui, normalement, l'homme de gauche.
Qu'est-ce que vous parlez politique, là? Ça n'a pas lieu, là. Ça n'a pas lieu d'être. Il reste une minute encore dans le temps additionnel entre la Belgique et l'Iran. Morgane Maury, c'est maintenant.
Et maintenant jamais pour les Belges, peut-être deux points à l'issue des deux premiers matchs face à l'Égypte et l'Iran. Luke Bakio sur le côté droit, il essaye de remettre sur son pied gauche, il va tenter la frappe. Hop, 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 ça passe à côté du poteau de Beravand. C'était bien fait mais c'est un peu trop long. 94 minutes, encore 45 secondes, 0-0 Belgique-Iran.
Est-ce qu'il y a touche ou pas Beravand, le gardien?
Non.
Mais il est sur la trajectoire en tout cas.
Oui.
Il était sur la trajectoire.
Elle était belle, cette frappe là, un petit peu en déséquilibre. Il cherche la lucarne opposée.
Magnifique.
Ça passe pas loin, mais c'est à côté.
Allez, donc ce sera une sortie de but pour les Iraniens. Il reste moins de 30 secondes dans le temps additionnel. Morgane Maury.
Ouais, est-ce que les Iraniens vont être capables de poser le pied sur le ballon? Non. Nouvelle occasion pour les Belges. C'est la dernière, Nicolas. Ils ont 15 secondes pour remonter le terrain, peut-être un peu plus. Le ballon, cette fois-ci, sur la gauche du terrain avec Van Aken. Et bon pressing à deux des Iraniens qui obtiennent une touche. 4 minutes, 55 secondes. Encore 5 secondes et on aura dépassé la limite du temps supplémentaire accordé par l'arbitre argentin dans cette partie. Belgique-Iran, 0-0. Est-ce qu'il va siffler la fin de cette partie, l'arbitre? Oui, c'est terminé. Exploit de l'Iran qui arrive à tenir la Belgique en respect grâce à son gardien, notamment Beravand. 0-0 entre la Belgique et l'Iran. Les Belges à deux points seulement après les deux premières rencontres du groupe. Rendez-vous face à la Nouvelle-Zélande samedi et Iran-Égypte pour savoir qui ira en 16e de finale.
Merci Morgane Maury. Oui, Kevin, il a dit, hein, Morgane, il a qualifié cette performance iranienne d'exploit. C'est une réalité.
Oui, c'est un exploit. Après, voilà, ils ont défendu beaucoup. Ils ont profité ensuite de ce carton rouge, mais ils ont jamais vraiment réussi à mettre la Belgique en difficulté, sauf sur coup de pied arrêté, avec ce coup franc et ce but sur hors-jeu et cette longue touche et cette belle parade de Courtois. Maintenant, les Belges, il leur manque du talent, on le savait. Et face à un verrou aussi bien verrouillé, ils n'ont pas réussi à passer.
Aussi solide, effectivement. Donc, à l'heure où on se parle, et avant le Nouvelle-Zélande-Égypte à 3h du matin, l'Iran est en tête de ce groupe car elle a plus marqué que la Belgique. Deux points pour les Iraniens comme pour les Belges. Troisième match nul dans ce groupe G, ça ne s'invente pas, c'est le groupe du point. Voilà, vous m'avez compris. Dans un instant, l'after avec Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Florent Gautreau. Gilbert s'installe. Kevin, merci à toi, excellente soirée. On se retrouve à 2h du matin, heure française, avec Maxime Chanot, Walid Deschachour et Julien Laurence en direct sur RMC. Ce n'est que le début, le cœur de la soirée des nuits de l'after. À tout de suite.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Demain, les Bleus affrontent l'Irak pour leur deuxième match et un petit nouveau est attendu dans le 11 de départ. Volkswagen ID Polo. Et visiblement, il a déjà trouvé ses supporters. Rendez-vous sur polofanclub.fr, polo, P-O-L-O, fanclub tout attaché.fr pour rejoindre la Polomania et remporter de nombreux cadeaux. Vous écoutez RMC, il est 23h02.
RMC, Alain Marchal.
Bonjour à tous, demain lundi on redémarre la semaine avec les GG, avec les grandes gueules, nous redémarrons la semaine ensemble. Vous serez en direct au 32-16 pour débattre avec Emmanuel Debillier, le chef d'entreprise, Charles Consigny, l'avocat, et la coach de vie, Joël Lagosséry.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Sur un marché de l'emploi cadre exigeant, comment évaluer un candidat au-delà du CV? Séverine Boivin, vous êtes consultante à l'APEC. Alors que proposez-vous pour innover dans le recrutement?
Eh bien, à l'APEC, nous avons deux solutions digitales gratuites. Mm-hmm. OSIM, qui génère avec l'IA des mises en situation pendant l'entretien. Mm-hmm. Et Audiapason, qui prépare en 10 minutes les questions clés à poser pour clarifier les attentes mutuelles des candidats et recruteurs.
Et pour découvrir ces solutions,
rendez-vous sur apec.fr dans votre espace recruteur.
Bonjour, petit vocal pour vous annoncer que la Coupe du Monde sur Beansport va être très intense. Du coup, on va faire vite. Vous aurez plus de matchs, plus de buts, plus de tacles, plus de saltos, plus de lucarnes. Mais aussi plus de célébrations, d'émotions, de joie, de larmes, de suspense. Et plus de stars, d'expertise, de débats, d'analyse, de duplex. Mais rassurez-vous, cet été, vous aurez 5 semaines pour profiter de tous les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, jour et nuit, seulement sur Beansport. 15 euros par mois sans engagement, voire offre distributeur.
BYD.
En ce moment chez BYD, découvrez BYD Atto de super hybride, le nouveau SUV urbain suréquipé avec 1000 km d'autonomie et 6 ans de garantie. Profitez de son offre de lancement dès 26 990 euros chez votre concessionnaire BYD. Autonomie cycle combiné pondéré WLTP sur Atto 2 DMI Boost. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, la 11e nuit de l'After en direct des États-Unis, en direct de notre studio new-yorkais. On est à fond dans la Coupe du Monde depuis donc maintenant plus de 10 jours dans l'After, en direct sur RMC, en direct sur la chaîne YouTube, également de l'After Foot. On est là jusqu'à 2h du matin avec Nicolas Jamin, reprenne la suite jusqu'à 5h. L'After, première radio de France le soir, vous le savez. Florent Gautreau est là, salut Florent.
Salut à tous.
Daniel Riolo est là également, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
On établit actuellement une liaison avec le Texas pour retrouver Samuel Umtiti qui est l'homme de Dallas.
Et que fait-il au Texas? Les Bleus jouent à Philadelphie demain. Matchs.
Il était à Houston hier pour les Pays-Bas.
Il voyage,
exactement.
Il est allé voir JR.
Exactement.
C'est pas personnes... Houston du tout.
Non, à Dallas.
Tu as dit qu'il était à Houston?
Oui, bah,
aucun rapport.
Compris, Dallas,
non, mais aucun rapport.
Référence de boomer.
Ouais, aucun rapport. Non.
Je pense que les moins de 30 ans, tu leur dis Dallas JR,
comment ça s'appelait,
Patrick Ewing et compagnie.
Et donc forcément la vie en fait n'appartient qu'aux moins de 30 ans.
Non, mais...
C'est une façon de voir ça. D'accord, très bien.
Mais ils font partie de nos auditeurs.
Comment ça s'appelait le ranch dans Dallas?
South Fork.
Ah, très bien.
Ah. Mais je suis béton armé là-dessus, mais je ne le ferai pas pour pas embêter Gilbert et les auditeurs dans moins de 30 ans.
T'es béton armé sur Dallas?
Absolument. Injouable.
Patrick Duffy qui a été aussi l'homme de l'Atlantide après.
Exactement.
L'événement ce soir dans l'After, c'est le match France-Irak de demain soir, évidemment les gars. Toutes les infos de veille de match, compo d'équipe et Kylian Mbappé en conférence de presse.
The Conf.
C'est toujours un événement. Et évidemment, comme d'habitude, il a dit plein de choses.
Et il y a des chants aussi.
Et des chants aussi.
Qui a dit moins de choses.
Qui a dit des trucs différents d'Mbappé d'ailleurs. On écoutera quelques extraits.
Un peu moins
tout
de choses. Kylian a été aussi bon sur la compte de presse que sur sa deuxième période.
Ah, c'est-à-dire que c'est du très bon niveau alors.
Ouais, plutôt du bon niveau.
C'est du niveau MJDM. Que tu veux dire?
Ouais, je n'irai pas jusque-là, mais à un très bon niveau.
On va analyser également le match Belgique-Iran. Daniel était passionné devant ce match tout à l'heure. À minuit, débat sur. Tu pourrais sourire au moins.
Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Que c'était passionné, que c'était super, que c'était un super
match. C'était un très bon match, non?
À minuit, débat sur les pauses pubs qui crispent de plus en plus, notamment Bielsa, qui d'ailleurs joue dans moins d'une heure. Dans moins d'une heure, il y a Uruguay-Cap-Vert, qu'on suivra, qui démarre à minuit. L'After donnera aussi son avis sur la victoire de l'Espagne face à l'Arabie Saoudite, 4-0 tout à l'heure. On débattra de la conférence de presse de Pape Thiot à la veille de Sénégal-Norvège. Et puis, tout à l'heure, à 1h du matin, on aura avec nous dans le studio de l'After Younes El Aynaoui, le père de Neil El Aynaoui. Younes El Aynaoui, ancien joueur de tennis, 14e mondial, qui sera avec nous pour parler foot, un peu tennis peut-être aussi. Et il y a plein
on
ne
le laissera pas partir sans une petite analyse tennis.
Tu penses?
Ah oui, quand même.
À ton avis, fan de Djoko ou pas?
Fan de Djoko? Pourquoi?
Ah,
je sais pas, pourquoi de Djoko plus que d'autres joueurs, tu veux dire?
Ouais. Parce que je sais que Djoko, c'est le sujet, c'est le débat permanent.
Oh non. C'était un très beau joueur de tennis, Younes El Aynaoui.
Bon, il nous dira quels sont ses temps.
Très élégant.
Il m'a rappelé la dernière fois qu'il y avait un autre joueur à son époque, c'est Hicham Arazi.
Hicham Arazi, bien sûr.
Il était très fort aussi.
Il était moins bien classé.
C'était l'équipe.
À Roland, c'est pas Hicham Arazi qui a été meilleur?
C'était la grande.
Non.
À Roland. Oui.
Juste à Roland.
C'était la grande époque du tennis marocain. Il faisait l'équipe de Coupe Davis avec Karim Halimi, un troisième homme.
L'Espagne a donc battu l'Arabie Saoudite 4-0 tout à l'heure. Belgique Iran 0-0, ça vient de se terminer, on en parle dans quelques secondes. Tout à l'heure donc à minuit, Uruguay Cap Vert. Et on a encore un autre match cette nuit, c'est Nouvelle-Zélande-Égypte qui sera à suivre dans les nuits de l'After sur RMC, évidemment, comme tous les matchs de la Coupe du Monde, vous le savez. On est là toute la nuit pour vous permettre de tout suivre. Et en plus, les podcasts sont disponibles si vous avez raté certains épisodes. Tout à l'heure, le match Nouvelle-Zélande-Égypte sera programmé à 3h du matin. En attendant que Samuel arrive, on parle de Belgique-Iran. Les gars, on a encore eu un gardien qui a fait les exploits. Alors, à la Coupe du Monde, c'est tous les jours un gardien. Hier, c'était le gardien de Curaçao.
Un jour, un gardien.
Hier, c'était Room,
voilà. Qui était au service. Et là, on a eu Behran Vand, qui est le bec BD iranien, qui a fait un match.
Moi, je suis plus le Julien SQD iranien.
Ok.
Pourquoi?
Il ressemble à
Julien Cheminé. Jamais de la vie, vous êtes perdus tous les deux complètement à la rue, les gars.
Ah, bah, donne le rêve, toi, alors. Tu dis qui?
Ah, mais je dis pas des bêtises, je préfère plutôt que d'inventer n'importe quoi.
Tu préfères l'appeler Beran Van.
À la limite, il peut avoir, si vous faites référer à un autre gardien, un peu de Roustou.
Un peu de Roustou.
Mais là, vous êtes perdus dans vos ressemblances. Mais on peut revenir au match.
Un peu de, comment s'appelle l'entraîneur de tennis? Un peu de Mouratoglou aussi.
Non, pas non plus, non. Mais vraiment pas du tout, du tout. Non, non, mais écoute, vous étiez peut-être fatigué devant le match.
Ah non, mais toi, tu dormais.
Une mauvaise humeur.
Je pense que vous étiez fatigué et que vous avez très, très mal vu tout ça de près. Bref, 2 points de match, les Belges.
Ouais.
Et contre des équipes qu'a priori, la Belgique devait dominer. Alors, oui, ok, elle domine le match. Elle est dans toutes les stats devant dans le match de cet après-midi. Même si je me suis égaré pendant 10 minutes avec un énorme coup de mou, ça m'a pas empêché de voir qu'ils ont dominé, mais il manque toujours quelque chose devant. Lukaku qui avait fait l'autre jour en entrant, enfin qui avait donné l'impression que la clé maintenant c'était lui. Là, je l'ai plutôt trouvé pâteau et assez lourd. De Bruyne n'est plus réellement capable de faire des différences dans ses dernières passes, ce qui fait que oui, ils dominent, oui, ils ont la possession, mais c'est jamais réellement tranchant. Mmh. Et moi, je suis bien obligé de constater quand même qu'il y a des joueurs dans cette équipe, quoi. Ce sont quand même des joueurs qui jouent dans des... Ok, certains ont été meilleurs qu'ils ne sont aujourd'hui, mais ça reste des joueurs qui sont dans des grands clubs européens. Et ça doit, contre une sélection d'Iran, être vraiment au-dessus. Ça doit gagner. Ça ne peut pas se contenter d'un match nul au final assez pauvre. Et tu es obligé de te tourner vers le sélectionneur. Et puis dis, bon, ben, Rudi Garcia, qu'est-ce que tu fais du matériel, en fait? Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais des attaquants que tu as sous la main, de ce milieu de terrain? Moi, je suis très déçu par cette équipe qui est dans un groupe. Il va lui rester qui maintenant à jouer? La Nouvelle-Zélande?
Oui.
Ils vont quand même être capables de les battre pour faire 3 plus 2, 5 et s'en sortir.
Se qualifier.
A priori, ok, d'accord. Les Belges vont se qualifier. Mais comme je les vois là, ils vont pas faire un grand monde après. Ils vont pas faire peur à un grand monde après. Hein.
Ouais, en fait, je pense
32-16, si vous êtes supporter de la Belgique, on vous attend pour analyser le match avec nous.
T'es dans le problème de ces équipes vieillissantes, c'est-à-dire qu'en fait, tu arrives sur une fin de cycle pour certains qui n'est pas encore totalement assumée. Je pense à De Bruyne. En plus, Lukaku est un peu hors de forme, donc c'est insuffisant.
Il n'a pas joué tout le match, il est sorti.
Il n'a pas joué tout le match. Bon, t'as Meunier qui fait plutôt une bonne saison, mais qui est aussi un ancien. Donc c'est une équipe un peu mixte, mais qui est quand même une équipe qu'on connaît hein, à peu près dans toutes ses lignes et qui est vieillissante. Donc effectivement, c'est décevant. Ils ont dominé, on va dire en termes de possession, même en termes de nombre de tirs. Mais à la fin, l'impression que tu en as, c'est que
d'occasions aussi. Hein, ouais, d'occasions largement devant.
Sauf que les Iraniens auraient très bien pu. Leur faire du mal, ils ont fini à 10 contre 11.
Ils auraient pu braquer le match, oui, mais.
Braquer, ils n'étaient pas seulement dans leur surface à défendre, hein. Ils ont eu des occasions.
0-4 hein. De XG, ça ne va pas chercher l'eau en occasion quand même. Hein. Ouais, ça veut dire que tu n'as pas vraiment eu.
Non, mais tu vois, j'ai plus pour les 0-83.
Ouais, parce que tu as la.
Mais en plus,
tu as la combinaison sur coup franc qui, certes, est hors jeu de quelques centimètres. Ouais, mais tu as compris ce que veut dire, c'est pas une équipe ridicule. Non, quand tu regardes le match.
Je sais pas qu'ils sont ridicules.
Ils ont été loin d'être ridicules, ils pouvaient très bien gagner.
Vraiment pas du tout, même.
Non, ils pouvaient très très bien gagner, et c'est pour te dire à quel point.
Ne transforme pas le fait que je dise que les Belges aient dominé en disant que l'Iran est ridicule, non, ça n'a rien à voir.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que ça montre à quel point cette équipe de Belgique est faible, c'est qu'elle aurait vraiment pu perdre sans que ce soit un braquage absolu ce match, parce qu'elle a subi aussi dans sa partie défensive, à N'Goy par exemple, l'action, elle est quand même symptomatique. Énorme erreur technique suivie d'une grosse faute, carton rouge.
Je ne sais pas si l'Iranien ne peut pas forcer un peu et ne pas se coucher et aller au bout de tenter.
Moi, je pense qu'il va chercher le carton rouge, l'Iranien. Oui. Parce qu'en fait, N'Goy met la main sur lui.
Oui, mais parce qu'un autre défenseur, il se dit que. Il a perdu la vitesse qui lui permet d'être devant et je crois que
s'il s'est pas vu aller jouer le 1 contre 1, il n'aurait pas réussi, il part de trop loin.
Il y avait un autre défenseur.
Tiens, écoutez, Romelu Lukaku, vous savez qu'RMC est détenteur des droits de la Coupe du Monde, donc c'est magique, on peut avoir une réaction d'après match comme ça à chaud. Romelu Lukaku, c'est parti.
C'est normal. Mais bon. On doit essayer d'analyser qu'est-ce qui s'est mal passé dans le match parce que voilà. On a eu tellement d'occasions et ne pas marquer aujourd'hui, c'est triste.
Oui, qu'est-ce qui a manqué dans ce match à part l'efficacité?
On joue avec trop d'émotions. Rien à dire. Trop d'émotions dans certains moments clés du match. On met trop d'émotions. Je pense que là, il faut garder le calme. Quand tu rentres dans un match, tu as toujours un plan. Et c'est bien de suivre le plan et de mettre les émotions de côté.
Le gardien iranien est l'homme du match.
Ouais, il a tout arrêté. Hein. Tous les ballons qui étaient entre le poteau, il a tout arrêté, donc il a mérité.
Et vous, personnellement, comment se sont passées ces 60, un peu plus de 60, 70 minutes?
Non, très bien, je suis content.
pour moi personnellement, mais il y a plus de déceptions qui règnent parce que voilà, on veut gagner.
Hein. Ouais. Là, il faut gagner le prochain.
Il faut gagner le prochain, il n'y a rien à dire. On s'en fout, mais il faut gagner le prochain.
En fait, c'est intéressant parce que sur l'émotion, je pense qu'il fait référence à Ngoy. Donc lui, il se permet d'envoyer un taquet à son défenseur, à mon avis, alors qu'il se dit content de ses minutes, ses 70 minutes, 70 minutes. Moi, je suis pas d'accord avec son analyse.
Je n'interprète pas comme ça du tout. Je suis pas sûr qu'il fasse référence à son défenseur.
C'est quoi alors l'émotion?
Ben non, puisque justement, quand il parlait de ça, bon, j'imagine que dans sa tête, ça n'a pas la même signification que nous on lui donne. L'émotion, c'est plus garder son calme. Et je pense qu'il faisait plutôt référence aux actions offensives qui n'étaient pas mises au fond. Parce que visiblement ils ne gardaient pas leur calme. Je pense
qu'il manquait un peu de froideur, quoi.
Exactement. Je pense que c'est à ça réellement qui faisait référence. D'ailleurs, si le gardien est l'homme du match, c'est bien la preuve quand même que les Belges ont dominé, ont eu les plus grosses occasions et auraient mérité de l'emporter.
Quelque part, ils ont cadré leur frappe. Hein. C'est le gardien qui a tout sorti. Hein.
Et donc, c'est pour ça que Lukaku faisait allusion à ça, à un manque de froideur, un manque de lucidité au moment de conclure toutes les occasions qu'ils ont eues. Non, enfin quand même, les Belges ils sont dans un groupe avec Égypte, Nouvelle-Zélande, Iran, quoi, quand même. Quand on dit que ces groupes dans cette Coupe du Monde sont faibles, waouh, quand même. Hein,
non, mais vraiment, ils devraient avoir 9 points.
Moi je veux bien. Hein, moi plus ça va, plus les jours passent. Au début, j'acceptais éventuellement la discussion. On pouvait parler des 48 équipes de cette Coupe du Monde avec ce format. Mais là, plus on avance, mais moi je trouve que c'est indéfendable. Quoi. Les groupes sont trop faibles, les matchs.
Tu veux dire, c'est indéfendable qu'une équipe comme la Belgique n'ait pas ses 6 points. C'est ça que tu veux dire?
Non, mais c'est juste que je sais pas.
Qu'est-ce qui est indéfendable?
Mais les groupes sont faibles. La formule à 48 donne pas des vraies adversités, des vraies rivalités, des grands matchs.
Et les Belges sont pas capables de gagner. C'est qu'il y a de l'adversité pour eux. Je comprends pas ce que tu veux dire.
Je sais pas, moi, si ça vous contente de voir la qualité de ces groupes, qu'est-ce que je veux dire?
Non, moi,
je veux
ça
dire,
me gêne
je veux dire, Daniel. Je veux dire que t'as un groupe avec Nouvelle-Zélande, Iran, Égypte, Belgique, quoi.
D'accord.
Enfin, merde, on est à une Coupe du Monde.
Non, mais ça me gêne plus.
Ça, c'est même pas un groupe de qualifs, normalement.
Non, mais ça me gêne. Attends, ça me gêne plus de voir.
C'est un groupe de qualifs, quoi.
Ça me gêne plus de voir l'Espagne, un match sans trop d'intérêt contre la
Suisse, Qatar, Bosnie et Canada.
Ça me gêne.
Ça, c'est la 48. Match, regarde la Belgique.
Mais il devrait
être
t'as envie d'avancer dans le sérieux, mais c'est plus,
attends.
C'est bon, ça suffit, quoi.
Non, mais attends, sauf que c'est très
impatient d'arriver à la phase finale.
Mais c'est bon.
Sauf que c'est très différent d'avoir Espagne, Arabie Saoudite, t'en as pas d'intérêt, ou Allemagne, Curaçao, et là je te rejoins, moi, sur la Coupe du Monde des 48. Sauf que là, c'est un peu l'inverse.
C'est que
t'as une équipe favorite qui est challengée par une équipe d'Iran qui est tout à fait méritante. Bah
ça accrédite la Coupe du Monde des 48.
Mais pas du tout. Mais donc, en fait, un jour, quand il y a Espagne qui se casse la tête contre le mur du Cap Vert, vous trouvez que ça accrédite et vous trouvez que c'est bien pour la formule. Quand l'Espagne met une branlée à l'Arabie Saoudite, là ça marche plus. Mais quand l'Arabie Saoudite faisait match nul contre gagnait contre l'Argentine il y a 4 ans le match d'ouverture, arrêtez 2 secondes, quoi. C'est bon.
Le Cap Vert, c'est de révélation. C'est bon.
Moi je vous dis que ça me saoule. Et que j'en peux plus de la façon dont cette compétition traîne. Mais ça traîne. 3 semaines pour faire une phase de poule, c'est bon. Je comprends pas que vous vous emballiez. Vous savez très bien que toutes ces équipes-là vont rien faire.
T'as pas écouté.
En fait, vous faites du misérabilisme.
Parce que ça nous intéresse,
Ça t'intéresse pas. Arrête de te mentir en même temps. Mais vous mentez en plus. Mais parce que vous mentez,
Tu mens quand tu dis que je mens.
Daniel.
Parce que je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Me dis pas que t'es intéressé par Nouvelle-Zélande-Iran ou ces matchs-là.
Si, Nouvelle-Zélande-Iran, on était ensemble. Même
mais tu les regardes.
Toi-même, t'as dit que c'était un bon match.
Mais c'est un bon match. Mais oui, j'ai trouvé que c'était un bon match.
Alors voilà.
Mais c'est un bon match de qualif. Mais va le regarder quand tu fais tes voyages en Asie. Tu te fais un match de qualif et tu vas le regarder.
La Coupe du Monde, t'as bien aimé.
Mais
donc,
pas pendant la Coupe du Monde.
Soirée.
La phase finale de la Coupe du Monde, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir ces matchs-là. Ça va.
Monsieur Gautreau.
Ah, ok, merci. Non, c'est juste pour dire que t'as pas écouté, parce que je te dis qu'effectivement, moi, je ne suis pas un partisan de la Coupe du Monde à 48, mais que tu te trompes sur le groupe en question, puisque ce groupe-là, en l'occurrence l'Iran aujourd'hui, elle mérite, à mon avis, l'Iran mérite sa place dans cette Coupe du Monde plus que le Curaçao. Il faut faire une différence entre les équipes, c'est tout. Tu peux avoir des équipes, des petites équipes, même dans une Coupe du Monde à 32 qui se qualifient. T'es d'accord? Il y avait aussi des petites équipes dans les Coupes du Monde avant.
Il y en avait même quand c'était à 24.
Donc moi, je te dis juste,
et l'Iran a joué une Coupe du Monde à
16 même.
Donc bah voilà, l'erreur, bah voilà, l'erreur, c'est Daniel, l'erreur à mon avis sur ce match, c'est que tu te trompes.
Mais je ne te parle pas de ce match.
Ah oui, mais on est en train de parler de ce match et tu dis j'en ai ras le bol. Moi je te dis que ce match il était super, que l'Iran a été à la hauteur. Et que non, mais c'est différent.
Et je voulais
de dire,
élargir. Je parle de ce match pour te dire
les gens qui regardent ce match, ils vont pas comprendre que sur ce match, on dit que la Coupe du Monde n'est pas regardable. Elle est regardable sur ce match.
Il y a deux heures, on a vu Espagne.
Là, je te rejoins. C'est Arabie pour ça que je te dis, il y a des équipes qui n'ont rien à faire.
Vois.
Non, il y a pas de match.
Bon,
Allemagne Curaçao, il y a pas de match. Voilà.
Donc, on va faire.
Mais c'est pas le cas ce soir.
Espagne Cap-Vert. Oh les Espagnols, ils manquent d'efficacité, il y a un vrai problème. Ah, et en Espagne, t'as tous les médias qui commencent à tourner à la catastrophe et si on trouve pas la solution, ce machin. Une semaine après, ils mettent une branlée à l'Arabie Saoudite, qui soit dit en passant, est peut-être supérieure au Cap-Vert.
Ah, je crois pas.
Et là, ah bah non, mais l'Espagne. Et là, on va entendre non, mais l'Espagne. Bah, de toute façon, le match il sert à rien. Ils ont mis une raclée à une équipe qui est faible. Donc, ne tirons aucun enseignement. Et bah donc, ma conclusion, c'est que tout ça ne sert à rien. S'il y a pas d'enseignement dans un sauce, dans un autre, mais ça ne sert à rien.
Non, je suis pas
c'est
d'accord.
Tout.
Je suis
voilà.
pas d'accord. Il y a certaines petites équipes. Non, il y a certaines petites équipes
qui font un exploit de temps en temps.
Qui, dans une compète même à 32, auraient eu leur place.
Je suis d'accord.
C'est le cas peut-être de l'Iran.
Oui.
Et que donc, quand t'as une petite équipe qui challenge et en jouant et en même pouvant gagner le match, une grosse, ça n'est pas la même chose que de dire Curaçao, Cap-Vert ou autre, ou, Arabie Saoudite, vous n'avez pas droit à votre place en Coupe du Monde.
Et ça donne la réflexion où il y a 10 personnes dans une pièce et t'en as 10 qui sont pour la petite équipe. Eh, hey, allez la petite équipe! Eh, allez la petite équipe! Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer, franchement?
Je sais pas, c'est toi qui dis que la Coupe de France, c'est génial.
Mais quel rapport?
Bah, la petite équipe.
La Coupe du Monde, c'est de l'élitisme. La Coupe de France, tu connais le principe dès le départ. En 32e de finale, arrive, mais déjà, c'est un élitisme, puisque les clubs de Ligue 1 n'arrivent qu'en 32e, déjà, à la base. Elles ne se tapent pas toutes les qualifs à partir de l'été, quand Kevin Diaz joue fin août sur des terrains râpés. Voyons, arrêtez. Mais franchement, vous faites des comparatifs qui n'ont aucun rapport. Aucun rapport. Vous savez bien que c'est une formule qui a été agrandie uniquement pour des raisons économiques.
Le statut,
c'est tout. Mais pas pour du football.
On ne parle pas
de football.
On sait très bien que c'est pour le pognon. Ça a été agrandi.
Et ben, on a le droit de le critiquer quand même.
Maintenant, on y est. Y a l'Iran. Et ben, aujourd'hui, c'était bien.
Mais maintenant que j'y suis, je ne suis pas obligé de tout manger.
Le Cap-Vert, l'autre jour, c'était bien.
Mais Gilbert, voilà. Si tu vas au resto, que le mec décide de te régaler, il te met 40 places sur la table, t'es pas obligé de tout manger quand même.
Bah, écoute, moi, depuis le début.
T'es obligé de tous les goûter, t'es obligé de tout bouffer. Même les plats qui te plaisent pas, t'as pas les escargots, t'en donnes, t'en manges.
Pour l'instant, depuis le début de la Coupe du Monde, j'ai tout mangé et j'ai très bien digéré. Tout va très bien. J'ai un transit parfait.
Voilà.
Et derrière, j'ai encore faim d'ailleurs.
Voilà. Très bien. Eh ben moi je pense que c'est pas vrai ce que tu dis.
Top, mais pourquoi? Mais c'est incroyable ça.
Parce que je pense que tu joues un peu la comédie.
Non, pas
de
du
l'intérêt.
Tout.
Bah si.
Pas du tout.
Bah, un peu.
Bah non, bah c'est faux. Donc ne dis pas.
En tout cas, ce Belgique Iran était bien.
Tiens, écoutez Rudy Garcia. Rudy Garcia, il y a quelques instants après le match.
Oui, bien sûr, parce qu'on a manqué d'efficacité.
Ouais,
je m'attendais à ce genre de match où on est pas loin de 70% de possession, voire plus, qu'on centre beaucoup, qu'on tire beaucoup. On a cadré, mais pas suffisamment mis ce gardien en danger. Après, j'oublie pas qu'on a joué 30 minutes à 10, ça aide pas contre ce genre d'équipe. J'ai pas grand chose à reprocher à mes garçons, si ce n'est qu'on n'a pas été efficace. Des matchs comme ça, on l'a déjà fait et on a mis 3 buts, même plus. Aujourd'hui, on n'a pas marqué. Quand on a été réduit à 10, au moins on a été solide et on a encore eu des situations, des occasions. Ça fait partie aussi d'un départ de Coupe du Monde où on départ diesel. Au moins, on sait quel résultat on aura à faire contre la Nouvelle-Zélande. Voilà.
Mais dans l'ensemble, est-ce que c'est le visage de la Belgique que vous vouliez voir aujourd'hui?
Non, parce que de temps en temps, pas tous, mais chez certains, on me semble un peu timoré. On a manqué un peu de profondeur alors qu'on avait vraiment insisté, travaillé sur le fait d'avoir beaucoup plus de verticalité. Même contre un bloc bas, on l'a pas fait suffisamment. Après, ceux qui sont rentrés ont amené du dynamisme, ont amené de la fraîcheur, on va dire, même psychologique. Bon, et après, effectivement, le fait d'être réduit à 10, c'est un peu compliqué parce que ça vous permet pas de peser dans les dernières minutes sur une équipe qui aurait été fatiguée parce qu'elle aura beaucoup couru. Mais c'est comme ça, c'est le football. Il faut être prêt aussi à ce genre de scénario. Même si j'ai trouvé l'arbitre un peu permissif sur les cartons jaunes. Mais bon, c'est pas à cause de l'arbitre qu'on n'a pas gagné. On aurait dû faire beaucoup mieux. Encore une fois, sur l'efficacité, c'est ce qui nous a manqué. On a eu vraiment des situations de marquer dans la surface où on doit être plus tueur. Je pense que c'est ce qui nous a manqué.
Romelu parlait d'un trop plein d'émotions peut-être chez certains.
Bon, je sais pas, j'espère que non. Maintenant, ce qui compte, c'est la Nouvelle-Zélande. Bien se préparer, bien se reposer, parce que 30 minutes à 10, ça tape dans les organismes. Voilà, moi j'ai confiance en mon équipe. On va battre la Nouvelle-Zélande, gagner le dernier match. On aura 5 points, je sais pas où on se trouvera. Mais peu importe, le tout c'est qu'on sorte de la poule.
Voilà, départ diesel, dit Rudy Garcia.
Et voilà, et dans cette Coupe du Monde, une équipe comme la Belgique qui fait 2 matchs nuls, qui justement, contre une équipe comme l'Iran, aurait pu valoriser la performance de l'Iran. Et donc punir la Belgique, et bien la Belgique n'est pas punie et va pouvoir se sauver en battant la redoutable et fantastique et historique équipe de la Nouvelle-Zélande. Voilà.
Bon. J'attends de voir qu'ils débattent quand même parce que
vu l'état de la Belgique actuelle,
elle peut aujourd'hui plutôt que d'être effondrée parce qu'elle aura fait 2 matchs nuls contre 2 sélections qui lui sont inférieures. Eh ben, elle peut se sauver en battant la redoutable et fantastique équipe de Nouvelle-Zélande.
Il y a un truc qui me choque dans ce que dit Rudy. Garcia, c'est de parler des 5 points. Parce que je pense que c'est prématuré. Il a dit, on va prendre 5 points et puis on va voir où on sera reversé après en 16e. Moi, je te dis que pour avoir vu la Nouvelle-Zélande contre l'Iran au premier match, il ferait mieux d'être un peu plus modeste et humble, à mon avis.
Dans un instant, l'équipe de France, conférence de presse de veille de match, Kylian Mbappé est venu parler et il a dit plein de choses intéressantes. On va l'entendre, on va en débattre avec Samuel Umtiti qui va nous rejoindre dans quelques instants. L'after revient tout de suite, les nuits de l'after continuent jusqu'à 5h du matin cette nuit avec notamment le match Uruguay-Cap-Vert qui démarre dans maintenant une grosse demi-heure. A tout de suite dans l'after.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Le menu Coupe du Monde de la FIFA chez McDonald's est officiellement lancé avec l'un des 6 gobelets légendaires dans la composition d'équipe. Nous avons le maître des passes, David Beckham, Lamine Lorev Yamal, le magicien des ailes, Ronaldinho, l'élégance incarnée, monsieur Thierry Henry, Son Heung-min, bien joué Sonny, et dans les buts, en violet, voici Grimace. Obtenez l'un des 6 gobelets collector avec le menu Coupe du Monde de la FIFA en ce moment chez McDonald's. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Durée limitée, un gobelet distribué aléatoirement parmi 6 modèles pour tout achat d'un menu Maxi Best Of Coupe du Monde FIFA. Votre soirée continue sur RMC.
En ce moment sur RMC, c'est la Coupe du Monde de foot.
Demain, deuxième match de poule de l'équipe de France face à l'Irak.
Échauffement dès 18h dans Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
23h, coup d'envoi en direct de Philadelphie.
Suivi du débrief et de l'afterlife toute la nuit avec tous les matchs jusqu'à 5h du mat.
France-Irak, deuxième match des Bleus au Mondial, c'est demain à 23h sur RMC.
Allez les Bleus!
Chauffeur VTC, vous assurez sur la route. Clients, courses, développement de l'activité. Mais pour sécuriser vos revenus, il vous faut un vrai statut.
Avec Sterling, devenez entrepreneur salarié et gardez votre indépendance. On s'occupe du reste. Administratif, fiches de paie, chômage, retraite, mutuelle. Besoin d'une voiture ? Sterling vous propose des locations sans caution.
Votre ambition mérite un vrai statut. Inscrivez-vous sur sterling.com, S-T-A-I-R-L-I-N-G, avec le code DRIVER. 100€ offerts avant le 30 juin.
RMC, Vincent Moscato.
Le super Moscato Show, c'est tous les jours de 15h à 18h sur RMC. On parle rugby, foot, vélo, de tous les sports. Et surtout en ce moment, on parle de foot avec la Coupe du Monde. Alors rendez-vous demain 15h sur RMC. On vous attend.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 23h27 en France, il est 17h27 ici dans le studio américain de l'After. Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là et Samuel Umtiti nous rejoint. Samuel, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Samuel, le Texan, Samuel. Qui est toujours à Dallas. Voilà. Ça va, exactement. T'es bien à Dallas ça te plaît
oui,
comme ville?
Oui, pas mal. Hein. Oui, ça me plaît. C'est un grand mot, mais... Je découvre cette ville. Non.
Sam Gilbert, on vient spécial, un peu de te mettre dans l'embarras, donc.
Non. Après, je découvre un peu plus chaque jour cette ville avec les cow-boys et tout ça. Donc, c'est cool. C'est différent.
Bon, il paraît qu'il y avait un grand rodéo il y a pas longtemps. Il y avait tous les supporters argentins qui sont allés assister.
Cet après-midi, rodéo. J'étais à un endroit où il y avait des rodéos et il y avait pas mal de supporters argentins. Donc c'était cool et c'était beau à voir. En tout cas, j'ai hâte d'être demain pour.
Tu crois que tu tiendrais combien de temps, toi Sam, sur un
sur un cheval.
Bah là, j'ai fait l'espèce de rodéo. J'ai fait le rodéo mécanique là.
Mécanique.
Ouais. Ah, le truc de fête foraine là.
Qu'on pas facile hein.
Ouais, pas facile, mais ça va vu que je suis assez gainé, ça va. J'ai réussi à tenir. Bon moment.
Ah ouais, donc tu t'es pas fait jeter par terre tout de suite. T'as tenu un peu.
Non, pas tout de suite, non.
Ça, j'aimerais bien tenter ça moi.
Mais c'est pas douloureux quoi, l'atterrissage.
Ça va. Il y a des parties du corps okay. Que oui, qui ont pris un peu, mais ça va. Ouais, ça va. Okay.
Demain, il y a Argentine-Autriche, hein, bien sûr, donc que tu commenteras à la télé. Alors, exactement. L'équipe de France. On va en parler avec toi parce que on est en veille de match, évidemment. Donc veille de match égale conférence de presse de veille de match avec le sélectionneur, avec un joueur. Et cette fois, le capitaine s'est déplacé, Kylian Mbappé. Et évidemment, il a été interrogé sur différentes thématiques, la principale étant la relation en attaque Dembélé, Olise, Doué avec lui. On va l'entendre là-dessus, mais d'abord, enfin, on lui a demandé où est-ce qu'il voulait jouer, quelle était sa position préférée. Et là, vous allez voir, il a gentiment fait de la diplomatie, il a noyé le poisson. Écoutons Kylian Mbappé.
Je sais pas, c'est sûr que je me sens bien en ce moment, mais je pense pas que ce soit dû à la position. Je me sens bien tout simplement physiquement, mentalement. J'ai fait 3 Coupes du Monde, j'en ai joué une à droite, j'en ai joué une à gauche. Pour l'instant, je commence devant. Tout est une question d'animation. Quel type d'adversaire tu vas jouer ? On est amené à être une équipe qui doit imposer son style. C'est une question qui est quand même complexe.
Voilà, donc en gros, il se
pose pas vraiment de réponse du coup.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ils ont un peu le poisson, quoi. Bah, il veut pas mettre dans l'embarras son sélectionneur, je pense.
En fait, pour corriger ce qu'il dit, quand il dit j'en ai fait une à droite, j'en ai fait une à gauche, moi j'aurais plutôt dit à sa place j'en ai fait 2 où il y avait un 9 autour duquel je pouvais tourner. Et peut-être une fois je partais un petit peu plus de la droite et une fois je partais un peu plus de la gauche. Mais lui, ce qui plutôt lui a toujours plu, c'était ça. Quand je me souviens au Paris Saint-Germain, il avait beaucoup œuvré pour essayer de faire venir un neuf de type Lewandowski. C'était qu'il voulait, d'ailleurs c'est pour ça qu'il aimait jouer avec Giroud, c'était un neuf devant. Et il pouvait tourner autour ou s'appuyer sur ce neuf-là. Donc il en a joué 2 dans un rôle un peu, même pas un peu, complètement différent du poste qu'il occupe aujourd'hui quand même.
Fabrice Hawkins, c'est là, il a...
Avec ça, Sam, avec ça ou pas ?
Attends, juste, j'accueille Fabrice, parce qu'il a assisté à la conférence de presse. Fabrice, bonsoir.
Oui, bonsoir. C'est drôle d'ailleurs parce que c'est sur cette question que je lui ai posée au sortir vraiment de cette conférence de presse. On avait tous des interprétations différentes. Certains avaient compris qu'ils préféraient plutôt jouer devant et d'autres disaient non, en répondant comme ça, en fait, c'est qu'en réalité, ils préfèrent jouer à gauche mais ils peuvent pas le dire. Donc c'est assez drôle de voir que tout le monde a compris des choses différentes.
Ah bah, du coup, Sam, tu comprends quoi, toi ?
Bah, je comprends juste qu'à l'heure actuelle, il est en neuf, il peut pas faire autrement parce que c'est la position qui a été choisie par le coach. Et au final aussi, c'est normal, il accepte cette position, il l'a aussi au Real Madrid. Donc c'est une position qu'il a. Après, je sais pas honnêtement
s'il peut faire jouer sur un côté. Il y avait un joueur qui occupait l'autre poste.
Ouais, mais exactement. Mais je sais pas honnêtement si. Comme les gens le pensent, il aime avoir ce poste, en tout cas être sur ce poste excentré pour rentrer dans l'axe. C'est peut-être la position où on l'a connu, mais après, je trouve qu'il a des qualités aussi pour jouer en tant que numéro 9. Et comme il l'a dit, et moi je le pense aussi, l'animation c'est super important, c'est que autour de lui, il faut avoir des joueurs qui sont capables de dézoner et à certains moments aussi d'occuper cette place de numéro 9. Parce que lui, en tant que numéro 9, c'est un joueur qui va se retrouver à un certain moment à gauche pour rentrer. Il va pas forcément rester qu'en pointe. Donc oui, c'est une animation qu'il faut trouver et avoir des joueurs qui soient capables de s'adapter un peu à sa position à lui.
Mais on est d'accord que là où il a le plus brillé dans sa vie, c'est toujours quand il y avait un 9. Parce que même Monaco, quand il se réveille, c'est à côté de Falcao.
Ouais, je suis d'accord.
L'équipe de France, c'était avec Giroud.
Mais je suis d'accord, mais là, quand tu vois sa saison au Real, il est neuf. Et que même si on va me dire que la saison du Real n'est pas top, il a marqué énormément de buts. Et oui, c'est en numéro 9.
Mais les buts, il les mettait également quand il était sur le côté. Qu'il les mette en 9, donc, ok, très bien.
Exactement. Mais c'est pour ça que je dis que pour moi, il est de dire sa position préférée, sa position favorite. Mais c'est qu'il est capable de jouer sur toutes les positions, Kylian. Mais parce qu'il marque. Et c'est pour ça qu'au final, une position préférée, je ne pense pas. Moi, c'est vraiment les joueurs qui sont autour de lui, qui sont capables de s'adapter à ce qu'il propose lui, au déplacement qu'il fait.
Il aurait pu.
Aussi, en réalité, il y a moins de contraintes sur le côté gauche et c'est plus facile aussi pour lui de jouer
avant-centre.
Parce
que...
qu'il y a évidemment moins de contraintes, pardon, quand il joue avant-centre plutôt que quand il joue sur le côté gauche, notamment défensivement. Et ça, on l'a constaté au PSG, au Real Madrid et en équipe de France. Dans le foot moderne, tu es obligé quand tu joues dans le couloir aujourd'hui de faire le minimum. Et Mbappé, son minimum à lui, il peut le faire quand il est avant-centre.
Moi, je trouve que c'est pas clair. Il noie le poisson dans cette réponse volontairement pour plusieurs raisons dont vous avez parlé. La première, c'est que comme on sait qu'il peut avoir eu la volonté de rejouer à gauche et que c'est un truc qui n'excluait pas, y compris par rapport à Dembélé qui aurait pu éventuellement récupérer la place dans l'axe, en on va dire en bon camarade. Mais la deuxième, c'est qu'il sait que Deschamps veut le voir dans l'axe parce que justement il y a le problème d'équilibre et d'effort défensif dont parlait Fabrice à l'instant. Et donc comme il sait que s'il dit dans sa réponse ah ouais non c'est vrai que je pourrais jouer à gauche, c'est pas un souci, ça va déclencher des débats sur ces fameux efforts et remplacements nécessaires, il noie le poisson parce que de toute façon il sait que comme le coach a décidé que de toute façon ce serait l'axe, autant rester un peu flou. Ça n'empêche qu'en interne je pense qu'effectivement lui il doit par exemple dire à Dembélé mais moi il y a pas de souci, s'il fallait jouer à gauche et puis toi tu pourrais jouer dans l'axe, tu vois, ils peuvent se dire ça, sauf que c'est pas le choix du coach, que je comprends d'ailleurs en l'occurrence, même si moi aussi je dans un premier temps, je disais hier, j'aurais préféré, pourquoi pas excentrer Kylian à gauche et pouvoir voir Dembélé, en tout cas dans sa position préférentielle. Mais j'entendais Samuel sur l'argument qui est très juste de dire que c'est pas les mêmes systèmes, c'est pas les mêmes coéquipiers. Donc après tout, à partir du moment où t'as pour une fois une idée assez sûre et forte là-dedans, c'est le choix du coach et dans ce cas-là, faut s'adapter à ça.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est rentré quand même dans les détails du lien des quatre de devant. Il a réanalysé le match du Sénégal, donc c'est pas mal.
Mais toujours dans un prisme.
Il a regardé deux fois et une fois avec le staff.
Une fois avec le staff, une fois seul, ça c'est marrant. Et toujours dans un prisme quand même et c'est un peu l'idée générale en ce moment de protéger, si tu regardes en filigrane, Dembélé. Parce qu'en fait, par exemple.
Le capitaine, tout simplement.
Mais plutôt bien fait. Très bonne communication d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a dit que Dembélé avait fait la meilleure première mi-temps des quatre, comme c'était pas très difficile parce qu'ils s'étaient tous un peu ratés. C'était pas totalement faux non plus par rapport à la passe que lui-même a pas bonifié. Ensuite, il a dit, vous voyez, sur telle action, c'est grâce à l'appel de Dembélé, ça se voit pas dans les stats. Donc il a joué son rôle toujours aussi pour être au soutien de Dembélé parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus.
On va l'écouter. C'est parti. Ça va partir.
Exceptionnel, qui a un profil, je pense, qui plaît à tout le monde. On a eu cette connexion avec Michael parce qu'on a réussi aussi à être parfaitement coordonnés, les quatre en attaque. On a plus vu Michael et moi. Peut-être que demain, on verra deux autres joueurs en attaque qui brilleront plus. Et on est très conscient de la qualité qu'on a devant. On est très content de l'avoir avec nous.
Voilà, ça c'était sur Olysée, en l'occurrence.
C'était pas le bon son, du coup.
C'était pas le bon son.
Dommage.
Mais bon, voilà. Fabrice, tu confirmes que c'est assez intéressant que c'est pas souvent qu'on ait une analyse tactique comme ça complète de la part du capitaine, quoi.
Oui, c'est sûr. Après, il est très intéressant, hein, Kylian Mbappé. Franchement, on a beau dire ce qu'on veut sur le terrain, sur le comportement parfois, mais quand il est en conférence de presse, à chaque fois, c'est un régal. Même quand il dit pas grand-chose, mais il a toujours cette espèce de grandiloquence. Il enchaîne espagnol, français, anglais. Il est vraiment très facile. Et comme le disait Daniel, c'est vrai qu'il était là en bon capitaine, en protecteur. Il a eu des mots vraiment très élogieux à l'égard d'Ousmane Dembélé. Vous en avez parlé.
On va l'entendre d'ailleurs.
Ouais. En tout cas, il a voulu vraiment protéger tout le monde. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ça fait écho à ce qui se passe dans le groupe, ce qu'on ne voit peut-être pas. Il est vraiment au petit soin avec tout le monde, avec ceux qui viennent d'arriver, ceux en tout cas qui jouent leur première Coupe du Monde, à échanger, à discuter, sa chambre est ouverte. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est la réalité, c'est ce qu'on m'explique, et il peut pas jouer avec ça. Et quand il vient comme ça devant les caméras et en conférence de presse protéger ses partenaires, ça va dans le sens de ce qu'il fait maintenant depuis le début de ce rassemblement.
On est tous convaincus de ça, Fabrice, on le sait tous, et vous qui êtes sur le terrain, vous le savez encore mieux que nous, parce que vous êtes très informés. On essaye de raconter ce qui se passe vraiment et de dire la vérité. Et pourtant, il y a beaucoup de milieux que ça ne pénètre pas. On continue d'entendre des choses complètement folles. On continue d'énormément critiquer ce joueur, de penser que tout ce qu'il dit est faux. C'est très bizarre.
Oui, il y a toujours un truc caché suscite, qu'il dit pas. C'est assez bizarre.
Alors que ce que tu dis, toi, on dit, c'est juste la vérité, quoi, de son implication, de la volonté qu'il a de faire gagner l'équipe, de donner le maximum, d'être proche de tous ses coéquipiers qui l'aiment beaucoup et à qui il rend tout ça. Mais bon, je sais pas pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Il y a des gens qui sont braqués et je sais pas si on a déjà eu ça dans l'histoire du foot, quoi. Un braquage en plus des compatriotes, hein, des gens qui sont du même pays, qui soutiennent la même équipe, je veux dire. C'est ça qui est fou, quoi.
Oui, je sais pas, Sam, tu veux réagir à ça? Tu constates comme nous cette espèce de méfiance en fait installée par.
Ça, tu dois l'entendre, Samuel, parce que n'importe n'importe qui a dans son entourage de près ou de loin, au final, des gens qui parlent comme ça. Et c'est.
Non, bien sûr, on l'entend. On l'entend, mais après, j'ai envie de dire des joueurs comme ça qui sont, pour moi, très bons, qui ont un talent incroyable, qui sont performants, qui sont capables d'être décisifs. Et en plus de ça, pour moi, sa communication, même si à certains moments, tu as pu faire des erreurs comme tout le monde, mais je trouve que sa communication est bonne. Et là, en tant que capitaine, de venir là avec deux matchs, de parler de son coéquipier, pour moi, c'est parfait. Et le fait, pour moi, d'être peut-être un peu trop parfait, les gens se disent non, c'est pas possible. Et ils vont toujours trouver quelque chose. Et ben non, on a la chance d'avoir un joueur comme ça, et français. Et je me demande encore, et c'est vrai que j'ai même pas des proches, mais des personnes que j'entends dans la rue qui me disent non, mais Kylian, c'est pas possible. Mais si Kylian, n'importe quelle sélection qui a Kylian serait, mais tellement content. Et nous, on trouve toujours le moyen de trouver quelque chose. Ah, ça, il a mal fait. Ah, ça, il aurait dû faire comme ça. Et non, on a quand même un joueur de classe mondiale, un des meilleurs joueurs au monde. Et en plus de ça, qui est dans une Coupe du Monde et qui est là, arrive à être comme ça décisif. Et je sens en tout cas que ça va être pour moi sa Coupe du Monde et qui emmène toute une équipe. Mais il y aura toujours, je pense, un débat là-dessus. Et devra j'ai l'impression, prouver, je pense.
Il a eu des mots intéressants aussi à un moment donné en parlant de son ambition et en disant que, bah, ici, ça plaît beaucoup parce qu'on lui parlait des États-Unis. D'ailleurs, il a eu un mot très marrant en disant que David Beckham l'appelait souvent pour savoir ce qu'il allait faire de son après-carrière. Et donc, en parlant des États-Unis, il disait, bah, oui, j'ai une grande ambition, je le dis, ça plaît ici, ça plaît peut-être pas partout. Et effectivement, parfois, ce phrasé-là, cette expression-là, c'est vrai qu'il parle beaucoup et qu'on s'en régale, mais ça plaît peut-être pas à tout le monde et c'est peut-être
c'est la réalité. La réalité. Mais tu sais, on sait tous que, par exemple, aux États-Unis, quand t'as l'ambition, quand t'es une personne ambitieuse et que tu le dis avec tes mots, bah, les gens vont dire, ok, je t'applaudis, t'as raison. En France, on va dire, bah, non, c'est pas possible, ils se la racontent. Comment, exactement. Et c'est la différence, pour moi, de mentalité entre la France et les États-Unis. Il a totalement raison là-dessus.
Écoutez-le parler d'Ousmane Dembélé tout à l'heure en conférence de presse, Kylian Mbappé.
La première mi-temps, c'est le meilleur offensif des quatre. C'est celui qui arrive à fluidifier le plus le jeu. Il était le plus en vue des quatre. Après, bien sûr, en deuxième mi-temps, Michael et moi, on a été décisifs. Mais il a aussi contribué. Quand on revoit le premier but, la passe de Michael, elle existe parce que Ousmane, il attire Niakate et il libère l'espace pour que moi, je puisse m'engouffrer dedans. C'est des choses qui comptent pas sur la ligne de statistique, mais c'est tout aussi important parce que sans ça, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de passe, il n'y a pas de but et on est toujours à 0-0. Ousmane est très tranquille. C'est le ballon d'or. Il sait qu'il a la confiance de tout le groupe, tout le staff. C'est un joueur très important pour nous. Ça fait des années qu'il est là. Il connaît parfaitement comment fonctionne l'équipe de France, le paysage médiatique autour de l'équipe de France aussi. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Et je suis sûr que dès demain, il va continuer à jouer sa marche en avant. Il va monter en puissance et ça va être un joueur primordial pour nous, c'est sûr.
Voilà pour Kylian Mbappé. Dans un instant, on va entendre Didier Deschamps. Et Fabrice, tu vas nous confirmer, j'espère, le 11 de départ de demain. Là, je vois que...
Gros suspense.
À quel poste ?
Non, je rigole.
Ah bon ?
Non, pas du tout.
Bon, gros suspense.
C'est ce qu'on explique depuis plusieurs jours.
Oui. D'autant que Tchouaméni, là, s'entraîne pas, là, actuellement. Donc, ça confirme qu'il jouera pas demain. Tu nous dis ça, tu nous détailles ça dans quelques instants. L'équipe de France, toujours en programme de l'after, évidemment. Et puis, on va faire un débat sur les pauses pubs dans quelques minutes également. Bielsa est pas content de ces pauses pubs qui divisent le foot désormais en cartons. Et El País, le journal espagnol, a fait une étude sur les conséquences des post-pub dans le jeu depuis le début de la Coupe du Monde. C'est très intéressant, on en débattra tout à l'heure, donc restez bien à l'écoute de la nuit de l'after qui continue jusqu'à 5h du matin.
RMC, l'after foot intégrale Coupe du Monde. RMC, Apolline de Malherbe.
Apolline Matin, c'est l'info, toutes les 30 minutes, c'est les invités qui font l'actualité, des rendez-vous pour tout comprendre à notre pays, à notre époque, à nos débats. Apolline Matin, c'est aussi du rire, évidemment, avec Arnaud Demanche. Et puis Apolline Matin, c'est vous, c'est vos appels, vos réactions, dès que vous le souhaitez, au 32-16 ou sur le WhatsApp de l'émission. L'info, la France, vos témoignages en direct et en liberté, voilà, c'est ça, Apolline Matin. Et c'est chaque jour, 7h, 9h, sur RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Anthony a gagné 67 500 euros grâce à la prime de match RMC.
Anthony, quel est le montant de la prime de match ?
Laisse-moi réfléchir. Est-ce que c'était 67 500 ?
Ça
Dès demain, on remet ça. RMC vous offre une nouvelle prime. 30 000 euros. Et à chaque but inscrit pendant la Coupe du Monde, elle augmente de 500 euros.
Oh là là, je suis refait.
Inscrivez-vous dès maintenant. Envoyez but par SMS au 732-16. But au 732-16. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.